Bien cher Samis, nous allons étudier aujourd'hui la nécessité de la cupidité. Vous savez, il est très important de découvrir en nous nos défauts, nos propres défauts psychologiques, sans nous cacher, sans nous justifier, car c'est la seule façon de pouvoir les désintégrer. Lorsque nous désintégrons un défaut, nous obtenons quoi? Un pouvoir, une vertu, un don, mais nous avons avant tout d'arrêter de croire que nous sommes bons, que nous n'avons pas de défauts psychologiques parce qu'en réalité, nous en possédons vraiment beaucoup et nous avons dans notre intérieur énormément de choses indésirables, beaucoup de choses qui nous manquent. Les défauts sont ceux que nous avons en trop et ce qui nous manque, ce sont les vertus. Et parmi ces défauts psychologiques que nous possédons, nous avons un autre, les moines de la cupidité. Et les moines de la cupidité est par lui-même à une tête de légion. Ce n'est pas un tout petit défaut bien caché en nous. Un tout petit, non. C'est un capitaine, un général des armées. Et sous ses ordres, il y a une légion de petits défauts de type psychologique. Nous ne parlons pas donc d'un moi, mais d'un ensemble de moi psychologiques, d'une légion de moi. Voilà de quoi il s'agit. Il est important de diriger notre attention sur ce que nous sommes vraiment parce que un grand nombre de ces défauts que nous avons dans notre intérieur sont ceux qui nous provoquent beaucoup de maladies, beaucoup d'obstacles dans notre vie, beaucoup de problèmes et qui nous mènent même aussi à la mort. C'est pour cela que le grand maître Bouddha Sakyamuni nous dit dans le Dhammapada, livre extraordinaire, au vers 7, et 359, livrer détruit les champs, les cultures, les mauvaises herbes poussent partout et n'importe comment, et ils abîment nos cultures et détruisent toutes ces que nous produisons. Le Dhammapada est un livre sacré, extraordinaire, avec beaucoup de sagesse. Nous reprenons de nombreuses citations du Dhammapada ainsi que beaucoup d'enseignements que le maître Bouddha donna tout au long de sa vie. Il nous dit donc que livrer détruit les champs comme la cupidité détruit l'humanité. Il compare la cupidité à livrer. Une culture entière peut être détruite par livrer et la cupidité détruit de la même façon l'humanité. Le maître Bouddha continue en disant « Par conséquent, celui qui se débarrasse de la cupidité, celui qui l'élimine, qui la désenterre, produit des fruits abondants. C'est-à-dire que tout lui réussit, et réussit tout ce qu'il fait. La cupidité est un des obstacles les plus graves qui existent et qui nous empêche de triompher dans la vie, chers amis. La cupidité détruit l'objectif principal de notre existence. Elle nous entrave dans ce que nous devons réellement accomplir dans notre vie. Elle est la cause des obstacles que nous rencontrons dans notre vie. On a souvent l'habitude de dire « Il y a des bons ennemis ». Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bonne cupidité. Nous n'avons pas besoin de la cupidité pour être quelqu'un dans la vie. Non, bien sûr que non. Mais nous nous justifions très souvent de cette façon de nos jours. C'est pour cette raison que nous avons dit aux dévotes de cette conférence qu'il était nécessaire de reconnaître nos erreurs, nos défauts, sans nous les cacher, sans les justifier. Si nous justifions nos erreurs, c'est que nous en avons besoin. C'est ce que nous pensons, que nous avons besoin de la cupidité pour vivre, pour avancer, pour grandir. Nous pensons que nous avons besoin de l'ambition pour vivre. Mais ce n'est pas ainsi que nous allons réussir dans la vie. Nous allons plutôt être dans des échecs complets. L'argent ne va jamais nous donner le bonheur ni la félicité. L'argent n'est qu'un moyen pour vivre, mais certainement pas pour être héros. Nos états de conscience à chaque moment de notre vie sont d'importance vitale pour trouver le bonheur. Ces états de conscience nécessaires ont bien été démontrés. Il y a des personnes qui ont de très belles et grandes maisons, des voitures dernier modèle, un travail très bien rémunéré, une gentille épouse, ou un gentil époux, des bons enfants et qui, avec tout cela, qui devrait normalement leur donner du bonheur, sont très malheureuses. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles n'ont pas un état de conscience qui correspond avec les événements qu'ils sont en train de vivre. Prenons un exemple. Dans une fête où normalement on passe un bon moment, il y a toujours quelqu'un qui est triste. Quelqu'un qui est assis tout seul dans son coin et qui pleure, qui est triste et mélancolique. Et cela parce qu'il n'a pas intérieurement un état de conscience positif correspondant à la situation extérieure qu'il ou elle est en train de vivre. Prenons un autre exemple. Une jeune fille va se marier. Le jour de son mariage, elle est nerveuse et anxieuse. Ou bien, le futur mari est nerveux et stressé. Ils ne profitent pas autant qu'ils l'auraient pensé à cette fête de leur mariage. Ils ont passé tellement de temps à tout préparer, à tout organiser, à dépenser, à vouloir faire les choses parfaitement qu'ils ne profitent pas de toutes de ces jours ou de ces nuits tant attendues. À cause du stress, de tant d'émotions, de que dira-t-on, à cause de l'angoisse pour que tout se passe bien, ils ne profitent pas du tout de cet événement extérieur qui est en train de se passer. Nous avons besoin d'avoir un bon état de conscience. Il y a des personnes qui ont à peine de quoi se nourrir, qui n'ont pas de compte de banque, qui n'ont pas d'argent, pas d'économie, qui ont un travail mal rémunéré, mais qui sont heureux dans leur humble petite maison, avec des vêtements humbles et des souliers qui ne sont pas de marque. Ils vivent bien et sont heureux. Ce n'est donc pas l'argent qui va nous apporter le bonheur, la félicité, mais bien notre état de conscience intérieur qui va nous permettre d'avoir ce bonheur que nous désirons tant. Mais notre état de conscience n'a rien à voir avec l'argent. Attention, nous ne disons pas qu'il ne faut pas travailler, non, ni qu'il ne faut pas dire ou faire de tout pour apprendre un métier, une profession, non. Ce que nous voulons dire, c'est que nous avons toujours tendance à voir l'argent comme un facteur de bonheur. Et ce n'est pas le cas. L'argent n'est pas ce qui va nous apporter du bonheur. Il est certain que nous avons besoin de trois choses fondamentales dans la vie et tout être humain a besoin de ces trois choses essentielles pour vivre. Nous devons étudier pour avoir une profession, un métier. Un métier artisanal est merveilleux, par exemple, parce que l'on aime manier son art. Si on est charpentier, et si notre vocation, on transforme les bois en des choses magnifiques, en des beaux meubles. Chacun peut faire de son travail ou de son métier une œuvre maîtresse. Le travail que nous devons faire va nous permettre d'avoir ces trois choses essentielles pour vivre. Et quelles sont ces trois choses fondamentales? Tout d'abord, les pains, c'est-à-dire l'alimentation. Nous devons nourrir notre corps pour qu'il fonctionne bien. Et s'alimenter ne veut pas dire manger beaucoup, non. Il faut manger de façon équilibrée pour que le corps soit sain. Et que l'on puisse exiger de lui un travail physique ou même un travail spirituel. Nous devons l'alimenter de façon équilibrée et être diversifié. Nous avons ensuite besoin de vêtements pour couvrir notre corps. Notre corps doit être couvert. Il doit être protégé par des vêtements. Nous avons besoin de chaussures pour ne pas marcher pieds nus. Et puis, nous avons besoin aussi d'un refuge, une petite maison pour vivre. Il n'est pas logique de payer un loyer toute sa vie. Bon, payer un loyer, un moment, des temps, que nous ayons une maison pour vivre, c'est bien, c'est naturel. Nous avons besoin donc de pain, vêtements et refuge. C'est fondamental. Nous devons avoir ces trois choses. Si nous travaillons pour avoir ces trois choses essentielles, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Parce qu'elles sont fondamentales pour vivre. Tout gouvernement qui se dit démocratique, mais que son peuple n'ait pas ces trois choses fondamentales, n'est pas un gouvernement démocratique en réalité. Il est apparemment démocratique, mais il ne l'est pas réellement. Nous avons besoin de pain, d'habitude et d'un refuge. C'est la base pour tout être humain. Travailler pour cela, c'est parfait. Et personne n'est contre les études pour apprendre un métier. Le travail fait partie du chemin, fait partie de la vie. Le travail est vraiment quelque chose de nécessaire. Car c'est un facteur pour s'autoconnaître, pour avoir de l'argent, pour pouvoir l'échanger contre pain, vêtements et refuge. C'est ou nécessité. Par contre, il ne faut pas confondre la nécessité et la cupidité. Tout le monde est différent. On ne peut pas dire, par exemple, qu'avec 10 000 dollars, nous sommes dans la nécessité, mais qu'avec 10 000 et 1 dollar, cela devient de la cupidité. Non, on ne peut pas parler ainsi. Chacun est différent. Chacun a des nécessités différentes, des barrières, mais il faut savoir où se termine la nécessité et où commence la cupidité. La cupidité a de très nombreuses facettes, de très nombreux visages, et on ne prête pas attention à cela. On pense que la cupidité, c'est l'effet d'accumuler des biens, des maisons, des voitures, des comptes en banque, de l'argent, mais l'ambition, en réalité, a de très nombreuses façons de se manifester. C'est pour cela que nous affirmons que l'ambition ou la cupidité est, comme un général des armées qui a sous ses ordres de très nombreux soldats. Chaque soldat représente un défaut psychologique. Chaque soldat est une forme ou un visage de la cupidité. Il existe beaucoup de formes d'ambition. C'est une légion de démons. La cupidité est une légion de démons et en disant cela, nous ne nous trompons pas beaucoup. Parce que c'est ce qu'ils sont en réalité, vous savez. Ils sont à l'intérieur de nous-mêmes, nous les avons même créés. Nous parlons très souvent de l'ambition de nos politiques. Nous disons qu'ils sont corrompus, c'est qu'ils volent le peuple. Lorsqu'ils obtiennent le pouvoir, par exemple, dans son ville, leur ancienne petite maison normale se transforme en une immense villa très luxueuse, dans un endroit très chic de la ville. Et nous nous demandons d'où ils peuvent sortir cet argent. Nous en déduisons qu'ils sont ambitieux, cupides. Oui, bien sûr, voilà le visage de la cupidité, de l'ambition, que nous pouvons identifier très facilement. Mais il existe beaucoup de sortes de cupidité. Il y a aussi de la cupidité chez ces pénitents qui se traînent à genoux pendant des kilomètres en demandant la santé. Là, nous voyons qu'il a de la cupidité, une ambition pour obtenir une bonne santé. C'est bien de rechercher une bonne santé. Personne ne dit le contraire. C'est bien d'aller voir les médecins pour avoir des médicaments et se soigner. Si on est malade, c'est très logique. C'est très bien aussi des prières, de méditer et de supplier. La divinité est demandante la guérison. Personne ne dit le contraire. Mais très souvent, nous convoitons la santé. Un exemple. Lorsque l'on s'enivre, souvent, lorsqu'on s'alcoolise, souvent, on fait du mal à notre propre foi, d'accord? On abîme notre foi. Et on veut que son foi guérisse. Pour changer, pour avoir une meilleure vie, pour aider sa famille, après beaucoup de souffrements, avec beaucoup d'amertume provoquée par leur vice? Non. Il cherche la santé de son foie pour continuer à boire. C'est une sorte d'ambition. Nous faisons des choses absurdes, des folies, qui ne sont dans aucun livre sacré. Nous faisons des choses qui ne sont jamais recommandées par les religions, mais nous les incluons dans celles-ci. Toutes les religions sont des perles enfilées sur le fil d'or de la divinité. Toutes les religions accomplissent une mission bien spécifique qui est de donner à l'humanité une connaissance spirituelle. Mais chaque religion a un niveau spirituel différent parce que justement, il existait plusieurs niveaux spirituels. C'est la raison pour laquelle il existe plusieurs religions. C'est exactement ce qu'il se passe avec l'école. Il y a les jardins d'enfants, les écoles du CP, ensuite les collèges, les lycées, l'université, les grandes écoles, les maîtrises, le doctorat. Une école du niveau du CP, par exemple, ne pourra pas enseigner et préparer les élèves en physique nucléaire. C'est la demande des études spéciales dans les universités spéciales. Il se passe la même chose pour le niveau spirituel. Il y a des personnes qui ont un niveau basique, spirituel, qui commencent juste tout au début des questions spirituelles. Elles ont besoin d'une école bien spécifique. Elles seront une religion qui lui correspondra. C'est pour cela que toutes les religions sont des perles enfilées sur le fil d'or de l'humanité. Toutes les religions accomplissent une mission, une fonction. C'est nous qui mettons dans la religion ce qu'il ne faut pas. Comme par exemple, s'abîmer les genoux ou se faire du mal physiquement pour demander à la divinité une guérison, par exemple, ou son pardon parce que l'on croit qu'en faisant cela, la divinité va nous écouter. Ces manières de faire sont dues à la mission, à la cupidité. Si nous voulons être entendus par la divinité, aidons les enfants pauvres, donnons de la nourriture aux personnes qui ont faim, donnons des habits à des personnes qui en manquent, aidons les malades et les nécessiteux. Cela est transcendantal. Mais faire des choses en sans cesse, en se faisant du mal physiquement, n'est-ce que pure ambition. Il y a aussi des formes d'ambition qui sont déguisées. L'ambition du saint, par exemple. On peut imiter une personne qui est douce, qui parle doucement. On imite sa façon de parler, sa façon d'être. On peut lui ressembler. On peut être cette personne. C'est une sorte d'ambition. Et vous pourrez me dire que c'est une bonne chose de vouloir être comme elle. Mais non, ce n'est pas bien. Parce que chacun est de ce qu'il est. Il faut être authentique, il faut être comme on est. Chacun de nous est différent. Lorsque nous voulons être comme quelqu'un d'autre, ou comme les autres, nous commettons les erreurs parce que nous en sommes la copie. L'original est parfait, mais nous la copie, non. Nous sommes une très mauvaise copie. Il y a aussi des personnes qui racontent des histoires très drôles et qui font rire tout le monde. Nous essayons de faire pareil, mais comme cela ne nous correspond pas, nous donnons une mauvaise impression et nous ne faisons rire personne. Chacun est comme il est. Convoiter la sainteté n'est pas le bon schéma. Il faut travailler pour avoir cette sainteté. Il ne faut pas la convoiter ou la copier. Nous convoitons aussi les biens matériels. Oui, nous les faisons tous. Nous ressentons tous de la convoitise et nous la justifions, mais tous. Mais tant que nous continuerons à la justifier, il nous sera impossible de la désintégrer. Il n'existe pas seulement la convoitise des biens matériels. Il existe aussi la convoitise du ciel. Nous ne travaillons pas pour monter dans les dimensions supérieures. Il y a des techniques, il y a des pratiques. Mais nous les convoitons. Nous pensons qu'en donnant de l'argent ou un héritage à une association ou à une église, nous irons tout droit au ciel. Non, les choses ne sont pas ainsi. Ça, c'est une cupidité spirituelle. Elle est apparemment très honorable, mais elle ne nous mène nulle part. Ce sont des moi qui sont apparemment bons, mais en fait, ils nous mènent tout droit au désastre. C'est comme faire un kilomètre sur les genoux parce que nous voulons la santé. Est-ce que vous croyez vraiment que la divinité, la mère divine ou les maîtres de la loge blanche ont plaisir à nous boire avec les genoux en sang? Est-ce que vous croyez que cela sert à quelque chose, à quelqu'un? Cela ne sert absolument à rien. À rien du tout. Ce n'est que pour ambition d'avoir la santé, parce que nous ne faisons rien pour avoir une bonne santé. Être malade, bien d'un déséquilibre dans notre vie. Si nous nous mettons très souvent en colère, il est évident que nous aurons une maladie du système nerveux ou que nous aurons des problèmes cardiaques. Et si nous voulons faire des choses bizarres pour être guéris, commençons par ne plus nous mettre en colère tout le temps. Sinon, comment croyons-nous que nous allons guérir si l'origine de notre maladie est la colère, l'envie, l'orgueil, la luxure ou le stress dans lequel nous vivons toujours? Comment croyons-nous que nous allons avoir la santé si nous avons une très mauvaise façon de vivre? Comment pensons-nous que nous pourrons guérir? Nous devons nous attaquer à l'origine du mal et non pas être toujours en train d'inventer des choses sans cesse. Là voilà la cupidité, l'ambition d'avoir de l'argent, des biens matériels, des biens spirituels. La cupidité a le visage d'un ange, d'un démon, d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, d'un marié, d'un célibataire. Voyez jusqu'où va l'ambition. Amen. Il y a l'ambition de ne pas être ambitieux. Vous vous rendez compte? Nous avons l'ambition de ne pas être ambitieux. C'est fou quand même. Voilà donc les innombrables facettes de la cupidité et de l'ambition, chers amis. C'est la réflexion à laquelle nous vous invitons aujourd'hui. L'ambition et la cupidité sont celles qui produisent principalement les guerres dans le monde. Nous prétextons à ces propos beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans certains pays, ils sont une façon de tuer les gens qui ne correspondent pas à ce qui acceptent d'autres pays. Alors, si vous tuez de cette façon que je n'accepte pas, je vais vous tuer à votre tour. Vous vous rendez compte, c'est cette absurdité. Vous devez tuer seulement avec des fusils, des mitraillettes ou des pistolettes. Mais si vous tuez avec autre chose que je ne vends pas, que je ne produis pas, que je ne fabrique pas dans mes usines, alors je vais vous tuer, je vais vous attaquer. Ce sont des justifications absurdes produites. Engendre encore. La violence engendre encore plus de violence. L'haine encore plus d'haine. De cette façon, les guerres ne se termineront jamais. Les causes principales des guerres sont l'ambition et la cupidité. L'ONU, avec ses soldats avec des casquettes bleues, sont dans certains pays pour la paix. Il y a eu des affrontements, des bombardements, des avions, des chars et tant de choses encore. Et tout cela au nom de la paix. Dans les journaux télévisés, on nous dira rapidement que là où nous avons déclaré la guerre, c'était parce qu'il y avait de l'uranium. C'est très intéressant. Là où nous avons fait de la guerre, c'est parce qu'il y avait des dépôts d'uranium ou des mines d'or ou beaucoup de pétrole ou bien d'autres choses encore. L'ambition nous aveugle, la cupidité nous aveugle. Un autre exemple. Lorsque le père de famille meurt et qu'il n'a laissé aucun testament, voyez comment ses frères qui s'attendent très bien, ses frères qui étaient si proches, cette famille qui se voyait toutes les semaines pour manger ensemble, ont commencé à se disputer. Les pères des familles mortes, la dispute et la guerre entre frères sont arrivés. Voyez comment ils s'attaquent, voyez comment ils se montent les uns contre les autres, voyez comment le pire de chacun monte à la surface. Et tout cela à cause de quoi? Nous voyons ces guerres entre frères partout dans le monde. Il y en a même qui se blessent, qui s'entretuent. Ils se battent tous entre eux, frères, sœurs, neveux, nièces, oncles, tantes. Et tout cela, pourquoi? Par ambition et par cupidité. Le gouvernement n'est que l'extension de l'individu. Le gouvernement est l'individu. Et si ces choses se passent dans une petite famille, s'il y a de l'ambition dans une famille, il y aura de l'ambition dans le gouvernement. Et s'il y a des conflits et des disputes dans une famille à cause de l'ambition, il y aura des conflits entre les nations à cause de la cupidité et de l'ambition. Les prétextes, les conflits sont multiples. Mais dans le fond, c'est à cause de l'ambition que les guerres se déclarent. Un pays prend des marches importantes dans un autre pays, une nation veut faire exactement la même chose et cela provoque des guerres. De plus, cela permet de vendre des armes, de vendre des avions, de vendre de la technologie nucléaire. Voilà ce que sont les guerres. Et elles ont leur cause et leur racine dans l'ambition et la cupidité. Nous pouvons crier, nos gouvernants sont des perverses, des bougeuses, voyeuses. Mais qui sont-ils? Ils ne sont que l'extension de l'individu. Ils ne sont que l'extension de chacun de nous. Chacun de nous produit des guerres. Et si nous n'éliminons pas les guerres dans notre foyer, dans notre famille, ou ce qui les cause, les guerres dans le monde ne s'arrêteront pas. Nous disons aussi, si mon parti politique avait gagné, nous ne serions pas là, nous aurions la paix. Mais c'est impossible. Baudier sait qu'il s'est passé dans certains pays sud-américains. Il y avait un pouvoir bien établi, bien canalisé. Puis, des pensées révolutionnaires ont surgi. Les peuples ont cru que ces nouveaux partis politiques leur donneraient la paix et le bonheur. Ils ont tous voté pour lui. Et finalement, le résultat, c'est que c'était bien pire qu'avant. À peu avant, nous devions travailler 8, 12 ou 14 heures par jour pour gagner notre vie. Mais maintenant, nous travaillons bien plus que l'argent ne veut plus rien. Notre salaire ne veut plus rien. À qui la faute? Ce n'est pas la faute du parti en place, ni celui de gauche, ni celui de droite, ni celui du centre. D'out, de note ou d'en basse? Non. Tous ces partis ne servent à rien, parce que dans tous existe l'ambition, dans tous existe la cupidité. Tant qu'il y aura de l'ambition et de la cupidité, il n'y aura pas de bons partis. Il n'y aura pas de bons partis. Il n'y aura aucun parti qui nous sauvera. Il faut en finir avec ce qui produit les guerres. Il faut en finir avec la cause de la guerre, c'est-à-dire avec ces deux facteurs principaux que sont l'ambition et la cupidité. Le comble, la pire des choses pour nous qui étudions la gnose et qui venons chercher le chemin de l'autoréalisation, c'est ce que nous combattons, ces pouvoirs. Saint François d'Assise nous donne l'exemple. Il n'y a jamais convoité des pouvoirs ou des dons. Il n'y a jamais dit, ni le disait jamais, Dieu veut être clairvoyante, ou j'aimerais pouvoir voyager dans l'astral toutes les nuits, ou on ne l'a jamais entendu dire à Saint Francis d'Assise. J'aimerais flotter par-dessous les arbres. J'aimerais avoir le don de l'ubiquité pour pouvoir être partout à la fois et parler avec les animaux. Non, il n'a jamais dit des choses pareilles. Ce que cherchait uniquement Saint François d'Assise, c'était de mourir psychologiquement, mourir en lui-même, ses défauts psychologiques, désenterrer ses passions et en finir avec ses défauts pour avoir la possibilité de revenir à Dieu. Lorsque l'on détruit ses défauts psychologiques, on obtient naturellement des vertus, des dons, des pouvoirs, mais de façon naturelle, spontanée. Mais il ne faut jamais les convoiter. Cela ne sert à rien et ne nous mène à rien. Convoiter des pouvoirs ne peut que nous amener à l'abîme de la magie noire. Voilà où cela peut nous mener. Sortir de l'arnose et chercher des endroits où on nous promet de la clairvoyance instantanée pour nous faire tomber dans le monde de la drogue. On nous dit que telle plante a le pouvoir de réveiller en nous de la clairvoyance, mais les choses ne sont pas ainsi. Éliminer la colère en nous pourrait nous donner la clairvoyance, mais personne ne veut éliminer la colère en lui. Alors, nous prenons des champignons hallucinogènes, des plantes spéciales de toutes sortes, et nous tombons dans l'abîme de la magie noire parce que nous avons combattu des pouvoirs. Voyez-vous les dangers? Il ne faut pas combattre les pouvoirs. Il faut travailler pour les obtenir naturellement, spontanément. Il faut que les pouvoirs grandissent en nous, graduellement, comme une plante. Nous voulons une orangère dans notre jardin. Pour avoir notre petit jus d'orange tous les matins, nous plantons la graine et vous pensez qu'elle va nous donner tout de suite d'orange? Bien sûr que non. Il faut attendre quelques jours, peut-être plusieurs semaines, pour avoir une toute petite plante. Et si nous y faisons bien attention, si nous l'arrosons tous les jours et nous y prenons soin, elle deviendra un petit arbre. Et alors, vous pensez qu'il va nous donner des orages? Non. Il faudra attendre encore. Nous devrons la préserver de l'ivraie, c'est-à-dire de la cupidité. Nous devrons la préserver des insectes et des maladies. Nous devrons y faire très très attention. la resserrent tous les jours avec beaucoup de tendresse et continuèrent à en prendre bien soin pendant un certain temps. Et peut-être qu'après quelques années, il nous donnera des belles oranges. Les pouvoirs les donnent les facultés dans les traits humains sont ainsi. C'est la même chose. Ce sont des années et des années de travail intérieur psychologique pour les obtenir, pour qu'à la fin, ils fleurissent, mais nous de façon naturelle. Regardez les arbres. Après s'être développés, après avoir bien poussé, ils commencent à donner quelques fruits, deux ou trois ou des bouts. Puis, plus ils seront grands et forts, plus ils donneront des fruits. Nous devons avoir beaucoup de patience. Cela demande beaucoup de travail. Les pouvoirs ne sont jamais donnés gratuitement. Comme ça, pour rien. Ils ne sont pas acquis avec des plantes hallucinogènes, des champignons ou des drogues. Nous devons travailler pour nous perfectionner et cela s'appelle l'initiation. Et n'a vraiment rien à voir avec une cérémonie réalisée n'importe où, avec un chaman, dans une pièce, avec des fumées, des parfums spéciaux, des paroles ou des danses bizarres. Et nous voilà initiés, juste comme ça. Non, pas du tout. Nous tombons entre les mains des charlatans, entre les mains des magiciens noirs, par ambition et par cupidité. Vous vous rendez compte jusqu'où peut nous mener l'ambition et la cupidité. L'ambition a beaucoup de visages, de formes, de nuances, beaucoup, des centaines et bien des milliards de facettes. La principale cause de l'ambition, c'est ce que nous appelons l'argent, bien sûr. Il faut analyser ce qu'est l'argent finalement. Si nous l'observons froidement, nous allons nous rendre compte que ce n'est que du papier, des petites bouts de papier avec des dessins dessous et des pièces de métal. Voilà ce qu'est l'argent. À quoi sert réellement l'argent? Eh bien, à rien. Est-ce que nous pouvons le manger, l'argent tel qu'il est? Non. Est-ce que nous pouvons nous couvrir les copes avec? Non. Est-ce qu'il peut nous protéger de la pluie? Non, plus. Est-ce qu'il peut nous protéger du soleil? Non. Alors, qu'est-ce que l'argent? L'argent est quelque chose à laquelle nous avons donné une importance psychologique terrible, une valeur qu'il n'a pas. L'argent est une invention de l'humanité pour que l'on puisse l'échanger par du pain, des habits et des refuges. Il faut donner à l'argent sa juste valeur. C'est une nécessité physique. C'est ce qu'a établi la société. Et nous devons travailler 8 heures par jour dans une usine ou une entreprise pour que l'on nous donne 5 bouts de papier et quelques cercles métalliques que nous échangerons pour de la nourriture, pour qu'on nous laisse vibrer dans une maison et pour nous habiller. C'est une nécessité physique. Il faut le voir tel qu'il est. L'argent est une nécessité physique. Et rien de plus. Ce qui est mieux, c'est lorsque nous faisons de l'argent une nécessité psychologique. Et si nous faisons cela, c'est la fin. Pourquoi faisons de l'argent une nécessité psychologique? Eh bien, parce que lorsque l'on possède ces petits cercles métalliques et ces bouts de papier, on est très bien bu, on est très bien traité. Si nous avons ces cartes en plastique, qui sont les cartes bancaires, du crédit ou de débit, nous sommes très bien acceptés. Lorsque nous entrons dans un commerce ou un magasin et que nous ne sommes pas habillés avec des vis-à-vis de marque, on ne nous remarque même pas ou on nous regarde de façon dédaigneuse, n'est-ce pas? Mais si l'on rentre dans ces mêmes magasins très bien habillés avec des habits de marque très coteaux, on nous sourit et on s'occupe très bien de nous. Et comment on nous traite très bien? Nous faisons alors de notre argent une nécessité psychologique, parce que nous sommes bien traités avec. L'argent nous donne du pouvoir, Il nous glorifie. Il nous donne de la connaissance, de la reconnaissance. Un pauvre qui marche dans la rue plein de tics ou de manies psychologiques bizarres est traité de feu. Mais un riche qui possède des millions et des millions, qui a les mêmes manies psychologiques, est traité comme une personne excentrique. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. L'argent cache les pires défauts. Nous recherchons et voulons de l'argent parce qu'il nous donne des pouvoirs sur les autres. L'argent nous donne la gloire. Il nous donne les honneurs. C'est pour cela que nous faisons de lui une nécessité psychologique. Nous en voulons toujours plus et encore plus. Et cela nous fait tomber dans des agissements très graves. Nous exploitons l'homme. L'exploitation de l'homme par l'homme à cause de l'ambition et de la cupidité. Nous sommes des grands patrons ou des chefs dans une usine. Nous faisons énormément travailler nos employés pendant de longues heures pour un salaire misérable et cela pour l'argent à cause de la cupidité et de l'ambition. Il n'est pas mal d'avoir une usine ou une entreprise, non, bien sûr, mais exploiter les gens, bien sûr que c'est mal. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Et Saint François disait à ce propos, le sexe est comme l'argent. S'il est utilisé pour le bien, il est bon. Et s'il est utilisé pour le mal, il est mauvais. Si nous utilisons l'argent pour le bien, pour couvrir nos nécessités de base, pour aider l'humanité de façon désintéressée, c'est très bien. Mais si nous utilisons l'argent comme une nécessité psychologique pour se sentir bien, pour se sentir puissante, pour être reconnu et être fameux, alors il est mauvais car nous sommes dans la cupidité, dans l'ambition, et cela ne nous apportera rien de bon. Nous devons voir dans cette nécessité psychologique une sensation de satisfaction. La satisfaction vient des sens, c'est-à-dire que nous ressentons à travers la fenêtre de nos cinq sens des sensations. Nous bougeons avec notre but, nous sentons des odeurs avec notre odorat, nous entendons dans les sens avec notre ouïe, nous goûtons avec notre goût, nous touchons avec notre toucher. Nos cinq sens nous offrent des sensations qui nous procurent des satisfactions. C'est une bonne chose. Nous regardons un très beau coucher de soleil. Cela nous satisfait. Notre enfant arrive et il nous embrasse. Et nous prenant dans ses bras, nous ressentons cela et cela nous satisfait. C'est bien. Mais très souvent, ce genre de satisfaction qui entre par la fenêtre de nos cinq sens entre dans notre mental et notre mental réagit de la mauvaise manière. Alors, nous voulons encore plus de satisfaction, non pas une satisfaction naturelle, non, mais une grande satisfaction hors sujet, qui n'a pas de sens. Nous voulons de l'argent, encore plus d'argent, et encore plus d'argent. Nous avons, par exemple, une voiture pour aller au travail, mais nous voulons encore plus. Nous voulons une voiture dernier modèle, mais nous ne voulons pas une voiture, mais deux, puis trois. Nous ne pouvons pas conduire ces trois voitures en même temps, mais nous les voulons tous les trois. Nous avons une maison, c'est très bien, mais nous en voulons deux, puis trois, puis quatre. Pourquoi en vouloir autant? En fait, nous recherchons les sensations qui nous donnent cette satisfaction. Nous recherchons cette satisfaction. Plus nous serons pauvres spirituellement, plus nous rechercherons à nous satisfaire dans le monde extérieur. Nous allons dans les centres commerciaux acheter beaucoup de choses qui ne sont pas souvent nécessaires et dont nous ne nous servirons jamais. Mais nous les avons achetées à des moments où nous voulions ressentir les satisfactions du pouvoir de penser. Cette satisfaction de ressentir que nous pouvons acheter, acquérir, nous pour montrer peut-être aux autres que nous avions de l'argent et tout cela pour des motifs psychologiques. C'est parce que nous sommes pauvres intérieurement que nous agissons ainsi. Nous recherchons alors à l'extérieur des vêtements, des outils, des lunettes, des teintures pour les chevaux, les chasseurs, etc. Nous ne sommes pas contre le fait de prendre soin de soi et que l'on s'habille bien. Dans l'Arnos, on nous demande d'avoir de l'hygiène, de respecter les autres, de s'habiller de façon décente. Que la femme se maquille ou se teigne les cheveux n'est pas un délit. Bien sûr, mais nous disons simplement que nous adoptons des attitudes psychologiques très bizarres à cause justement de cette pauvreté intérieure. Nous achetons quand souvent paires de chaussures parce que nous recherchons cette satisfaction devant notre pauvreté intérieure. Et si nous n'achetons pas des chaussures que nous ne porterons jamais, nous achetons des outils que nous n'utiliserons jamais non plus. Mais nous les avons là, près de nous, bien rangés, et nous les utiliserons lorsque nous en aurons besoin. Personne ne dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'outils. Mais une chose est d'acheter un outil dont nous avons réellement besoin, et une autre chose est de rechercher la satisfaction d'avoir des tonnes d'outils rangés dans un coin sans jamais les utiliser. Voilà l'ambition, voilà la cupidité à cause de cette pauvreté intérieure. Les causes de l'ambition et de la cupidité ont beaucoup de facteurs. L'ambition cause les guerres, les souffrances, de la douleur et est le responsable de l'exploitation de beaucoup d'autres choses. Bon. Et pourquoi? Un des facteurs qui crée l'ambition est la peur. On a peur de vieillir. Alors, on continue à travailler comme un âne. Bon, c'est une bonne chose de travailler. Nous travaillons beaucoup et nous devons être contents de notre travail et dans notre travail. C'est une très bonne chose. Mais travailler comme un âne parce que l'on a peur de la vieillesse est absurde. On travaille de façon exagérée. On est anxieux, très stressé. Et nous arrivons à quoi? À nous rendre malades, à fatiguer notre corps. Et effectivement, dans ces conditions, nous aurons une vieillesse misérable. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous avons peur. Nous voulons avoir de l'argent et encore plus de l'argent. Nous voulons des voitures, des comptes en banque, des maisons. Avoir des économies ou une petite fortune pour nos vieux jours et pallier à des dépenses imprévues. C'est parfait, c'est une bonne chose. Mais avoir toujours peur de manquer fait que nous devenons ambitieux et nous recherchons la sécurité sans arrêt. Beaucoup d'entre nous pourraient être vraiment heureux, mais nous ne le sommes pas parce que nous avons beaucoup peur. Nous avons toujours peur. Peur de manquer, c'est ce qui provoque en nous l'ambition. C'est pour cette raison que nous devons découvrir les causes de notre ambition. Et nous verrons que c'est souvent la peur. La peur de la vieillesse, la peur de la mort, la peur de manquer, la peur de la pauvreté. Cette ambition, cette cupidité, ne peut se chercher la sécurité, mais là où il ne faut pas la chercher. Il y a des ouvrières qui gagnent suffisamment pour vivre. Mais les médias, la télévision, l'Internet, la société ne peuvent toujours acheter à vouloir des tas de choses pour pouvoir bien vivre. Il faut absolument posséder ceci ou cela, une belle maison, une voiture, peut-être deux, des vêtements de luxe, des chaussures, des parfums. Pour bien vivre, il faut avoir un téléphone portable dernier modèle. Etc., etc. On recherche donc ce qui n'est pas nécessaire. On a déjà de quoi manger, de quoi se vêtir, un logement, peut-être humble, mais on l'a. On a toujours peur. Et on peut aussi tomber dans la prostitution. L'humble cuisinier ou le serveur d'un restaurant gagne bien sa vie, mais il a peur et cette peur lui fait rechercher la sécurité. Comme les petits poissons qui cherchent des refuges parce qu'ils ont peur. Ils cherchent refuge près de leur mère lorsqu'ils entendent un bruit qu'ils ne connaissent pas. C'est cette recherche de sécurité qui provoque l'ambition. La peur est une des causes de l'ambition. Nous devons réfléchir et analyser tout cela et nous-mêmes. Il y a autre chose qui cause l'ambition, c'est l'envie. Bien sûr que oui. Nous voyons notre voisin ou notre petit frère qui a moins fait de tout que nous, mais qui réussit bien mieux que nous et qui a déjà une petite voiture, une belle maison. Apparaît alors l'envie en nous. Et cette envie nous embête entièrement. La réussite de notre voisin ou notre frère nous met en colère. Comment est-il possible qu'il ait des choses plus belles que moi? On se met alors à travailler encore plus et plus. Nous avons travaillé suffisamment, mais nous travaillons encore plus. Et nous oublions notre épouse et nos enfants. Avant, nous les voyions tous les soirs. Mais maintenant que nous travaillons beaucoup, nous ne les voyons plus très souvent. L'envie d'avoir les mêmes choses que notre frère ou notre voisin nous fait travailler plus que des raisons. C'est comme cela que travaille l'ego en nous. Il veut toujours plus. Il travaille toujours plus. Et alors l'ambition et la cupidité apparaissent. Nous ne travaillons plus pour vivre, mais nous vivons pour travailler. Nous ne voyons plus notre épouse ni nos enfants et nous ne les connaissons plus. Nous ne connaissons pas leurs amis, ni ce qu'ils font de leur journée. Par contre, nous disons que nous travaillons pour eux. Et tout cela parce que nous avons peur, nous ressentons de l'envie. Et cela a pour conséquence l'ambition et la cupidité, mes chers amis. Nous ne sommes pas contre le travail, loin de là. Nous avons besoin de travailler et de trouver notre vocation. Celui qui trouve sa vocation trouve un précieux trésor. Nous devons être contents de notre travail. Nous devons sourire et être heureux de notre travail et de notre travail. Nous ne devons pas subir notre travail. Il faut que notre travail nous plaise, que ce soit dans n'importe quelle branche ou dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de mauvais travail. Tous les travaux sont honorables et sont une bénédiction. Bénis le travail de tes mains et mets tout ton cœur dans ta pensée au travail. Nous disaient les anciens axiomes hermétiques. Le travail humble n'est pas mauvais. Tout travail est nécessaire. Pourquoi disons-nous à nos enfants que le travail des paysans est méprisant? C'est une pure folie. Les paysans nous alimentent. Nous devrions tous vouloir être des paysans. Voilà un travail qui produit, qui aide, parce qu'il y a des travaux qui n'ont aucune utilité, qui n'aident rien du tout. Il y a des travaux très simples qui produisent et qui aident vraiment la société. Nous avons besoin de travail et nous devons être contents de notre travail. Il faut qu'il nous plaise, qu'il nous l'aimons. Si nous ressentons de l'amour pour notre travail, on devient irremplaçable, vous savez. On nous renvoie. Ce n'est pas important. Parce que l'on aime son travail. On trouvera toujours une sortie. Une porte s'ouvrira toujours pour nous si nous aimons notre travail. On trouve toujours une manière de subsister parce que l'on fait de son travail une vocation. Lorsque l'on fait de son travail une vocation, ce travail devient un apostolat. Nous devons aimer notre travail. Nous ne devons pas le fuir ni regarder les heures, mais l'aimer vraiment. Si nous faisons cela, tout serait différent. Si nous voulons avancer, nous devons connaître les moments où se termine la nécessité et où commence la cupidité et l'ambition. Tout le monde est différent et chacun de nous doit découvrir en lui ces moments. Comment pouvons-nous faire? Nous vous donnons une pratique qui est la suivante. Premièrement, nous nous allongeons sur le dos en prenant la forme de l'étoile à cinq branches. Nous prenons les bras et les jambes de façon de chaque côté, comme l'étoile de Léonard da Vinci, dans son dessin des proportions de l'homme. Nous aurons la tête dirigée vers le nord. C'est une position merveilleuse pour la méditation. Ensuite, en étant bien détendus, nous nous concentrerons sur nos propres nécessités. Les nécessités immédiates, la nourriture, les vêtements, notre habitation, nous méditerons sur chacune de ces nécessités. Nous devons bien sûr beaucoup travailler pour obtenir ces petites pièces métalliques et ces bouts de papier que l'on appelle l'argent pour pouvoir les échanger contre de la nourriture, des habits ou pour ce que nous voudrons. Nous méditerons sur tout cela. Notre corps devra être bien détendu et notre mental devra être silencieux et calme. Nous méditerons bien concentrés sur ces nécessités. Pour chacun, c'est différent et chacun doit découvrir en dedans de lui-même quelles sont réellement ses nécessités physiques immédiates. Ensuite, nous allons essayer de nous assoupir en essayant de découvrir par nous-mêmes et non pas parce que les autres nous ont dit ceci ou cela. Nous allons découvrir quelles sont nos nécessités physiques immédiates. Concentrons-nous sur nos propres nécessités physiques immédiates. Méditons sur chacun d'elles et essayons, en nous assoupissant, de découvrir par nous-mêmes où se termine la nécessité et où commence la cupidité, l'ambition. Il faut pratiquer cet exercice très souvent et pendant longtemps. Si notre concentration et notre méditation intérieure sont correctes, nous découvrirons dans cette même méditation graduellement quels sont nos besoins légitimes et où commence en nous notre cupidité ou notre ambition. Et ainsi, comme le disait Bouddha, si nous nous débarrassons de la cupidité, nous ferons fluir merveilleusement notre vie en nous. Voilà, mes chers amis, nous avons terminé notre conférence. Pour la bibliographie, nous vous suggérons dans le livre Introduction à la gnose du maître Samael en béant les chapitres Pain, vêtements et refuge. Nous vous recommandons aussi le livre L'éducation fondamentale. Vous le trouverez sur notre website pour les étudier et approfondir ainsi tout ce que nous avons vu dans la conférence d'aujourd'hui. Chers amis, notre website c'est www.samaelgnosis.net dans la section en français. Chers amis, merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. Comme toujours, à bientôt.